Merci d'écouter RFI. 13h en temps universel, il est 14h ici à Paris.
RFI Midi.
Anne Contenaire.
Dernière partie d'RFI Midi, au sommaire de cette demi-heure américaine, l'enquête, les questions à Brasilia. Après deux explosions hier près d'institutions à quelques jours de l'ouverture du G20 au Brésil. L'actualité en Haïti et Port-au-Prince au ralenti à cause de la violence toujours plus grande des gangs. Nous serons en direct avec le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Au sommaire également, notre dossier sur le racisme au Mexique et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Tessa Groman, nous parlerons tout à l'heure avec vous du diabète en Guadeloupe.
Oui, où cette maladie touche deux fois plus de personnes que dans l'Hexagone, tout comme en Guyane et en Martinique.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Contenaire.
Pour commencer, une mise en garde de l'Iran.
Oui, les installations nucléaires ne doivent pas constituer une cible pour des attaques militaires. Le chef de la diplomatie iranienne et le chef du programme nucléaire de l'Iran l'ont redit. C'était lors d'une rencontre avec Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Siavosh Ghazi nous appelle de Téhéran.
Raphaël Grossi répondait à une question sur les menaces israéliennes contre les installations nucléaires de l'Iran. Selon les lois internationales, les installations nucléaires ne doivent pas être attaquées, a déclaré le directeur général de l'agence. De leur côté, les responsables iraniens ont rejeté toute pression contre le programme nucléaire du pays. Toute résolution adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA contre le programme nucléaire de la République islamique fera l'objet de contre-mesures et de réactions immédiates, a déclaré le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne préparent en effet une résolution contre le programme nucléaire de Téhéran qui devrait faciliter l'envoi du dossier iranien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette visite intervient avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En 2018, il avait déjà quitté l'accord nucléaire et imposé de très dures sanctions contre Téhéran. Avec sa nouvelle équipe, notamment le prochain secrétaire d'État, Marco Rubio, les États-Unis devraient durcir encore le ton à l'égard de l'Iran. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Au Liban, à nouveau des frappes israéliennes ce matin au sud de Beyrouth. L'armée israélienne poursuit ses bombardements des bastions du Hezbollah. Depuis trois jours, ces frappes sont quotidiennes. Les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. C'est un comité de l'ONU qui l'affirme, le comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes. Son rapport alerte sur les pertes civiles massives et sur les conditions imposées aux Palestiniens dans les territoires occupés. Ce rapport sera présenté lundi prochain à l'Assemblée générale de l'ONU.
Une nouvelle série de nominations aux États-Unis.
Oui, huit jours après son élection et après une rencontre aux apparences courtoises avec Joe Biden, Donald Trump continue de composer l'équipe qui va l'entourer à la Maison-Blanche. À Guillaume Nodin, certaines des nominations sont très étonnantes.
Pour décrocher une position clé dans l'administration Trump 2, il y a une qualité qui vient manifestement avant les autres, c'est la loyauté, voire même une forme d'allégeance. C'est ainsi que le président élu choisit un personnage controversé pour devenir ministre de la Justice, mais un personnage qui le soutient envers et contre tout, l'élu de Floride, Matt Gaetz, 42 ans, connu jusqu'ici pour avoir, avec un petit groupe de républicains radicaux, fait tomber l'ancien speaker de la Chambre, Kevin McCarthy. Donald Trump se dit persuadé qu'il mettra fin à l'instrumentalisation de la justice dont il estime avoir été victime. Peu importe également si Matt Gaetz est soupçonné d'avoir eu une relation tarifée avec une mineure lors d'une soirée où circulait aussi de la drogue. Il a démissionné de ses fonctions à la Chambre et l'enquête de la commission d'éthique à son sujet s'en trouve automatiquement arrêtée. Étonnement aussi après la nomination de l'ancienne démocrate devenue trumpiste convaincue Tulsi Gabbard comme directrice nationale du renseignement. Étonnement en raison de ses prises de position conformes à celles de la Russie sur la guerre en Ukraine et sa compréhension affichée pour le dictateur syrien Bachar el-Assad. Enfin, cela a pris quelques jours, mais le sénateur de Floride Marco Rubio, connu lui pour ses positions très dures sur la Chine, est confirmé au poste de secrétaire d'État. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Joe Biden a donc rencontré hier Donald Trump. Il est attendu aujourd'hui à Lima, où se rend aussi le président chinois Xi Jinping. La capitale péruvienne accueille un sommet des pays de l'Asie-Pacifique dans le cadre de l'APEC, organisation qui réunit 21 pays et représente 60% du PIB mondial. Au Pérou, Xi Jinping doit inaugurer le premier grand port commercial contrôlé par la Chine en Amérique latine, un ouvrage qui symbolise l'intérêt croissant de Pékin pour cette région. Agnieszka Kumor.
Considéré jusqu'ici comme le domaine réservé des États-Unis, le sous-continent latino-américain attire Pékin presque autant que l'Afrique. Le port de Chancay en est l'exemple édifiant. Installé au Pérou, l'une des économies les plus dynamiques de la région, le terminal profitera aussi au Chili, à la Colombie ou encore à l'Équateur. Il leur permettra notamment de se passer des ports mexicains et américains. La Chine est par ailleurs le premier exportateur de lithium raffiné. Elle veut garantir son approvisionnement en matières premières en profitant des gisements qui se trouvent en Argentine, au Chili et en Bolivie. Et puis, l'Amérique latine constitue un débouché important pour les produits chinois. Ainsi, les échanges commerciaux entre la Chine et les pays de la région ont été multipliés par 35 ces 20 dernières années pour atteindre près de 500 milliards de dollars en 2022.
C'était Agnès Kakoumor du service économie de la rédaction. Nouvelle avancée russe dans l'est de l'Ukraine. La Russie revendique la prise d'un village près de Kourakové. C'est l'un des secteurs du front où ses troupes avancent face à une armée ukrainienne en recul depuis plusieurs mois. La présidence de la COP29 cherche à calmer le jeu après un incident diplomatique entre Bakou et Paris. La ministre française de la Transition écologique a décidé de ne pas se rendre à la conférence climat après les attaques qualifiées d'inacceptables. Hier, le président azerbaïdjanais Aliyev a dénoncé des crimes du régime du président Macron, en particulier en Nouvelle-Calédonie, d'où la colère de Paris. Notre porte reste ouverte à tous pour des discussions constructives et fructueuses, a assuré ce matin le négociateur principal de l'Azerbaïdjan.
L'Argentine, elle ne participera plus à la COP29.
Oui, sur ordre du président Javier Milei, la délégation argentine ne doit plus assister aux négociations à Bakou, mais rentrer au pays. Une décision, Théo Conscience, en phase avec le climato-scepticisme affiché par le chef de l'État argentin.
Depuis ce matin, l'Argentine brille par son absence à Bakou. Les membres de la délégation de la 3e économie sud-américaine ont reçu hier la consigne de ne plus assister aux négociations de la conférence sur le climat afin de ne pas cautionner les décisions qui y sont prises, selon Noticias Argentinas. Toujours selon l'agence de presse argentine, la décision qui vient directement du président Javier Milei n'implique pas une sortie de l'accord de Paris sur le climat. En début de semaine, la délégation argentine avait présenté la position du pays dans un document qui assurait que l'Argentine s'opposerait à l'imposition de toute obligation qui irait à l'encontre des besoins de développement du pays. Ce retrait des négociations à Bakou s'inscrit dans le rejet de l'agenda 2030 de développement durable des Nations Unies que Javier Milei critique régulièrement. Le président argentin rejette le consensus scientifique sur le changement climatique qu'il a qualifié par le passé d'invention socialiste. Selon sa sous-secrétaire à l'environnement, il considère que la hausse des températures est un phénomène cyclique qui n'a que peu à voir avec l'activité humaine. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Enfin, c'est le jour J pour le match de football qui fait tant parler depuis plusieurs jours en France. Les tricolores affrontent Israël ce soir au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations. C'est la 5e et avant-dernière journée avant les quarts de finale. La rencontre se déroulera sous très haute surveillance policière compte tenu des tensions politiques du moment et des récentes violences à Amsterdam. Quelques 4000 forces de l'ordre sont mobilisées. Le Stade de France sera loin de faire le plein puisqu'on attend que 20 000 spectateurs environ pour une capacité de 80 000 places. Enfin, de nombreux responsables politiques, dont le président Macron, mais aussi ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, ont prévu d'assister au match. 14h08 ici à Paris. Très bonne journée sur RFI. Je vous laisse en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un nouveau journal. Et nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Avec le Brésil à la une et une enquête ouverte à quelques jours du sommet du G20. Enquête sur une possible attaque près de la Cour suprême à Brasilia. Écoutez la gouverneure Celina Leao.
Je pense qu'il est important d'attendre un peu la publication du rapport officiel, mais pour le moment, nous savons qu'il a fait exploser la voiture et qu'il est parti. Ce citoyen a fait exploser la voiture et s'est approché de la Cour suprême fédérale. Selon les premières informations, il s'agirait d'un suicide.
La gouverneure de Brasilia. Cette attaque supposée, elle fait aussi la une de la presse que vous avez lue pour nous, Christophe Paget.
Oui, il y a eu en fait deux explosions, explique au Globo, une près de la Chambre des députés dans laquelle l'homme a trouvé la mort et une autre à 500 mètres de là quand son véhicule a pris feu dans un parking. La police fédérale estime qu'il pourrait y avoir un lien avec la tentative de coup d'État du 8 janvier 2023 qui a eu lieu au même endroit. Cet épisode renforce le débat écrit au Globo sur la protection du siège des trois pouvoirs 1 an et 10 mois après les attaques du coup d'État. Le président du tribunal suprême fédéral a d'ailleurs déjà indiqué que s'il y a effectivement un lien, l'enquête sur l'explosion sera jointe à celle du 8 janvier, rapporte Folia de Sao Paulo. Les députés de l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, craignent déjà que les explosions d'hier compromettent l'examen du projet de loi amnistiant les personnes condamnées pour la tentative de coup d'État. D'autant que, écrit Folia, le suspect est un ancien candidat à un poste de conseiller municipal du Parti libéral de Jair Bolsonaro. Ces explosions interviennent, il faut le dire, alors que le pays accueille la semaine prochaine un sommet du G20 à Rio de Janeiro, ainsi que le président chinois à Brasilia.
Et Jair Bolsonaro, justement, s'est exprimé après ces explosions. Sur X, l'ancien président appelle au dialogue et à une pacification nationale au Brésil.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Une nouvelle journée au ralenti hier en Haïti. Dans la capitale, il n'y avait quasiment pas d'école ni de commerce ouvert. Mais des tirs, oui. Des tirs dans plusieurs quartiers, comme tous les jours. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste et vous revenez dans votre éditorial sur cette situation avec ce constat. Nouvelles autorités, même problème.
Même problème, effectivement. Si les autorités politiques essaient de monter un nouveau gouvernement, rien n'a encore été annoncé jusqu'à présent après la nomination du Premier ministre Alexis Diefizemé, la vie quotidienne des Haïtiens est toujours perturbée depuis dimanche soir. Quasiment tous les quartiers ont tiré beaucoup, la nuit, le jour. Il y a des déplacés dans la journée, il y a des blessés, il y a des morts, il y a des affrontements avec la police et les bandits, entre la police et les bandits. Et surtout, il y a des gens qui sont en train de chercher refuge. L'OIM, l'Organisation internationale de la migration, a déjà comptabilisé 4500 personnes qui ont laissé leur domicile les deux premiers jours de cette semaine. Beaucoup d'entre eux se retrouvent dans des camps ou bien chez des amis. Mais en réalité, ce sont des gens dont la vie est en train de s'effondrer parce qu'ils ont dû tout laisser, tout abandonner, prendre un petit sac et essayer de sauver leur vie, comme on dit en Haïti.
Et puis vous rapportez une information, Franz, qui donne une idée de l'ampleur des violences. Les soldats des Bahamas, dépêchés au sein de la mission multinationale d'appui à la sécurité, ont été libérés de leurs obligations par leur gouvernement. Ils peuvent partir s'ils ne se sentent pas en sécurité.
Tout à fait. Cela dit beaucoup de la situation en Haïti. Ces soldats étaient venus renforcer la mission d'appui multilatérale à la sécurité. Voilà qu'ils ont été libérés de leurs obligations par leur gouvernement. Il faut dire que depuis qu'il n'y a plus d'avions qui font le trafic entre Haïti et les Bahamas, même pour ces soldats, la situation devient de plus en plus compliquée. Pour le moment, l'aéroport de Port-au-Prince ne reçoit aucun vol. Ces soldats sont en Haïti, ils sont un peu seuls. Eh bien, leur gouvernement les a libérés, mais cela dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de la situation sécuritaire. Il faut dire que ces derniers jours, on ne voit plus les Kenyans, on n'entend plus parler d'opérations majeures de la police. On résiste ici et là, mais c'est tout simplement une dégringolade qui continue.
Et la conséquence de cette violence qui augmente, de la suspension aussi des vols américains de et vers Port-au-Prince depuis le début de la semaine, c'est aussi une aggravation encore de la situation humanitaire. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU l'a indiqué hier et il a fait la liste, Franz, des opérations d'aide qui ont dû être annulées ou qui sont empêchées.
Tout à fait, parce qu'en réalité, tout se passe ou par avion ou par hélicoptère. Les avions et les hélicoptères ont été attaqués dans les airs ces derniers jours, ou par la route ou par bateau. Mais et la route et les bateaux, ces jours-ci, c'est compliqué. On peut accéder au port, mais c'est quand même risqué. Les routes sont totalement bloquées ces jours-ci parce que les gangs sont en train d'affronter la police sur plusieurs points de la région métropolitaine et tout part ou revient vers Port-au-Prince. Aujourd'hui, faire l'humanitaire, c'est comme faire les autres choses. C'est comme vivre tout simplement en Haïti. C'est compliqué, c'est très compliqué parce que l'insécurité est en train d'affecter tous les secteurs et cela ralentit quasiment toutes les activités.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, vous concluez votre éditorial du jour par cette phrase « Les chefs changent, les problèmes demeurent, ils augmentent même de manière exponentielle ». Merci Franz d'avoir été avec nous. On vous retrouve jeudi prochain sur cette antenne. D'ici là, on peut vous lire sur le site lenouvelliste.com. Et puis à propos de ces violences, il y en a eu une nouvelle illustration avec une attaque contre une ambulance de Médecins Sans Frontières. On en parlait hier sur cette antenne. L'organisation humanitaire s'est indignée que ses équipes aient été arrêtées, violentées, menacées par des forces de l'ordre. obligé de changer de route pour conduire 3 blessés vers un hôpital public, auprès duquel 2 de ces blessés ont été tués par balle. Je vous propose d'écouter la réaction de Christophe Garnier, le chef de mission de MSF France en Haïti.
On est tous sous le choc, c'est vraiment la première fois qu'on a du personnel qui se fait agresser, menacer verbalement, violemment. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'en tant qu'MSF, on peut continuer à pérenniser nos opérations en toute sécurité. L'arrêt d'MSF en Haïti serait une catastrophe. Aujourd'hui, uniquement 30% des structures hospitalières sont fonctionnelles. Donc la présence d'MSF est quand même essentielle pour la prise en charge des brûlés, pour la prise en charge des violences sexuelles, pour la pédiatrie. Il n'y a pas que de la traumato, on a vraiment un champ d'exécution très très large. Mais effectivement, si on n'a pas l'assurance aujourd'hui, du gouvernement notamment, de pouvoir travailler en toute sécurité, ça va devenir problématique. Donc ce qu'on aimerait, même si nos relations sont au quotidien très très bonnes, ça peut être une déclaration de la police, ce serait parfait, une déclaration du gouvernement, ce serait idéal, assurant que oui, MSF est le bienvenu et que tout est mis en œuvre pour assurer, comme toujours, la sécurité de nos patients, de notre staff, mais également de nous-mêmes.
Le chef de mission de Médecins sans frontières, il ajoute que les structures humanitaires, d'une manière générale, sont soumises à une violence croissante en Haïti.
Je pense que c'est dû à une souffrance générale dans ce pays avec une dégradation générale de tout le système, que ce soit le système éducatif, le système de santé. Et donc, il y a une souffrance cumulée, sans doute un ras-le-bol cumulé. Ça fait plusieurs années que ça dure. Et en fait, on sent une tension monter d'une population qui est à bout de souffle et qui n'en peut plus.
Et donc, même les structures de soins sont victimes de ces tensions.
Port-au-Prince, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Et 80% de la ville est gérée par des gangs aujourd'hui. Donc fatalement, parmi nos patients, on accueille absolument tout le monde. Je ne pense pas qu'une seule personne de Port-au-Prince, une seule famille de Port-au-Prince ne soit pas affectée par la situation. Quel que soit le côté où elle se place, peu importe, tout le monde aujourd'hui est affecté d'une situation et a souffert de cette situation. Et évidemment, ça génère beaucoup de violence et beaucoup de tension.
Christophe Garnier, le chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti. 13h17 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Tout de suite, on prend la direction de la Colombie.
RFI, la radio del mundo.
Explosion de joie au Sénat, c'est à lire dans la presse. Christophe Paget, la Colombie a adopté hier une loi interdisant le mariage des enfants.
Oui, El Colombiano précise que ces dernières années, cette loi avait déjà échoué à 8 reprises à être adoptée. Cette fois, le projet de loi a été soutenu par plusieurs groupes parlementaires. Il est maintenant entre les mains du président Gustavo Petro. El Informador indique qu'entre 2020 et 2023, 1403 mariages d'enfants ont été enregistrés en Colombie. Dans le pays, le code civil permettait jusqu'ici le mariage à partir de 14 ans avec la permission des parents, ce qui avait engendré malheureusement un marché, écrit le quotidien, un marché de filles et de garçons qui était utilisé comme monnaie d'échange contre du bétail, des ressources, des lots. Semana rappelle de son côté que les mariages d'enfants entraînent des cas de violence fondés sur le genre, des grossesses d'enfants et d'adolescentes, la déscolarisation et, pointe-t-elle universelle, la situation des filles indigènes est la plus préoccupante. Un tiers d'entre elles sont mariées avant d'être majeures à des hommes ayant le double ou le triple de leur âge.
Christophe Paget, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Après notre dossier du jour, au Mexique, où l'on se demande comment faire face au racisme très ancré dans la société à travers des clichés, imbriqués aussi dans des schémas économiques récurrents et liés, comme dans de nombreux autres pays, à l'histoire coloniale, à la violence des conquêtes passées. D'ailleurs, la question mémoriale a provoqué des tensions récemment entre le Mexique et l'Espagne, anciens colonisateurs, au point que les autorités espagnoles n'étaient pas invitées à la prestation de serment de la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum. Les universitaires, les militants cherchent des moyens de parler du racisme au Mexique et d'en parler au-delà du cercle simple des chercheurs et des spécialistes de la question. Gwendolina Duval.
Depuis 2016, l'académicien César Carrillo, qui étudie le racisme, cherche le moyen d'en parler au grand public. Au cœur de l'université privée de la Ibero, à Mexico, il présente une exposition avec ses collections de cartes postales anciennes.
Il y avait des millions et des millions de cartes postales qui circulaient dans le monde entier. Et donc on construit des clichés qui passent d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire l'indigène avec leur chapeau, l'Africain avec son costume.
Envoyé depuis le Mexique, mais aussi d'autres parties du monde, des centaines de cartes postales témoignent d'une époque, depuis la moitié du 19e siècle jusque dans les années 1930.
Sans le vouloir, les cartes postales du monde entier ont construit l'archive coloniale.
Sans pudeur, certaines illustrations exaltent la violence, Hernán Cortés écrasant la tête d'un indigène avec le pied. Des photos montrent le massacre ou l'exécution des populations autochtones. D'autres stigmatisent les locaux et glorifient la traite d'esclaves.
C'est toujours les Blancs qui commandent. Et les gens qui sont là en train de travailler sont horribles. Regarde ça. Les images montrent la naturalisation de cette violence, de cette subordination des gens d'autres continents.
Le Mexique, où la colonisation espagnole est nommée Conquista, cherche à renouer avec son passé et à le rediscuter. Depuis 2019, le pays réclame des excuses à l'Espagne. Ce serait l'occasion pour l'historien et philosophe Martín Ríos de déconstruire les méconnaissances qui perdurent sur cette période.
Certains groupes de personnes en Espagne maintiennent encore que la conquête a été un processus civilisateur où les tribus indigènes ont été libérées. Et au Mexique, on maintient l'idée dichotomique que les mauvais Espagnols ont conquis les bons indigènes, quand on sait qu'à l'époque en Amérique, il y avait ce qu'on pourrait appeler une guerre civile. Évidemment, tout cela ne change en rien le fait qu'une grande partie des populations indigènes a été exploitée, qu'il y a eu des morts de faim et de la surexploitation. Une réflexion commune pourrait bénéficier aux deux nations, l'Espagne et le Mexique, mais aussi toute l'Amérique latine, pour nous réconcilier d'assumer le passé.
C'est bien de discuter du rôle de la colonie et de ses processus coloniaux, mais il est aussi important de ne pas s'arrêter là. L'Occident, en particulier au XIXe et XXe siècle, a poursuivi ces dynamiques d'exploitation sans nécessairement les appeler coloniales.
José Ángel Bazán travaille pour l'association Racismo MX qui défend les victimes de racisme au Mexique. Le récit national repose sur le métissage, mais la classification des différentes catégories de personnes est loin d'avoir disparu.
Le racisme au Mexique est un racisme intégrationniste, c'est-à-dire qu'il efface les différences. Nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Cela peut paraître beau en théorie, mais le problème est que puisque ces sociétés sont profondément inégales et stratifiées, eh bien si vous mettez tout le monde dans le même sac, vous omettez de parler des différences et des structures d'oppression qui se cachent derrière.
Au-delà de l'oubli ou de la stigmatisation des racines indigènes et africaines du Mexique, les traces de ce classisme infusent encore les films et la publicité. La réussite sociale est bien souvent le privilège des personnages blancs, tandis que les peaux foncées incarnent les représentations de la misère ou de la marginalisation sociale. Dans un pays comme le Mexique, avec tant d'inégalités, les conséquences sont bien concrètes.
Évidemment, les races biologiques n'existent pas, mais la race en tant que construction sociale, la racialisation, existe bel et bien. Elle détermine la vie des personnes et elle est à l'origine d'un bon nombre d'inégalités économiques.
Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
RFI, The World's Voices.
On vous retrouve, Christophe Paget, pour la suite et la fin de votre revue de presse aux États-Unis, où Donald Trump continue d'annoncer les membres choisis pour former sa nouvelle équipe, avec une dernière série de noms qui soulève beaucoup de questions.
Oui, et toute la presse parle de Matt Gaetz comme ministre de la Justice, Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, et Tulsi Gabbard, directrice du Renseignement National. Trois personnes, selon le Washington Post, idéologiquement extrémistes et manquant de l'expérience nécessaire, alors que le président les a choisis pour des postes clés de la sécurité du pays. The Hill rappelle ainsi que Tulsi Gabbard s'est fait l'écho de nombreuses théories conspirationnistes. Chacun de ces choix constitue pour le nouveau Sénat à majorité républicaine un test majeur de sa capacité à faire passer l'intérêt général avant la loyauté envers le parti, estime le Washington Post. De fait, les sénateurs républicains sont bien embêtés, à en croire le Boston Globe. Au Congrès, la presse s'est précipitée pour les faire réagir et ils ont affirmé ne pas avoir connaissance des dernières informations ou ils se sont réfugiés dans des ascenseurs où ils ont poussé de longs soupirs incrédules. De toute façon, Donald Trump compte se passer de leur assentiment puisque, rappelle le New York Times, il a insisté pour que le chef de la majorité républicaine au Sénat organise des pauses dans les sessions qui lui permettront d'installer unilatéralement les membres de son cabinet. C'est une attaque en déni de service contre une des instances de contrôle de la présidence, tonne le New York Times.
L'élection de Donald Trump, qui avait fait s'envoler les cours du dollar et du bitcoin, eh bien, elle a aussi rapporté beaucoup d'argent à quelqu'un, 85 millions de dollars.
Oui, le Wall Street Journal présente l'homme qui n'a pas donné son identité comme un trader ressortissant français qui aurait parié plus de 70 millions de dollars que Donald Trump allait remporter la présidentielle. Il l'a fait sur la plateforme Polymarket, une plateforme offshore de paris en crypto-monnaie. Et il a récupéré cette somme, 70 millions, plus 85 millions de dollars. Son surnom, Anne, la baleine Trump.
La revue de presse signée Christophe Paget à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Tessa Groman, pour parler d'abord du diabète. C'est la journée du diabète ce 14 novembre.
Oui, maladie qui concerne particulièrement les populations des Antilles. Avec deux fois plus de personnes touchées dans ces îles que dans l'Hexagone, se rajoutent à cela certaines spécificités, notamment en Guadeloupe. Peggy Robert, Guadeloupe la première.
Le diabète touche généralement plus les hommes que les femmes, mais la tendance est inverse en Guadeloupe, 59% de femmes contre 41% d'hommes. Les hospitalisations pour amputation des pieds ou des jambes sont plus fréquentes que par rapport à l'Hexagone. Le diabète est souvent découvert à l'occasion d'un dépistage dans les trois quarts des cas, mais les études montrent qu'une personne sur deux ignore qu'elle est diabétique. La sensibilisation collective de la population générale et des professionnels de santé reste donc primordial, comme lors de cette journée mondiale consacrée au diabète.
En Martinique, garde à vue prolongée pour Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC à l'origine des émeutes contre la vie chère dans l'île. Il lui est reproché de s'être introduit de force dans la résidence du préfet lundi soir, ce que contestent ses avocats. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont enregistré moins de violences cette nuit que la précédente à Fort-de-France. Dans la nuit de lundi à mardi, les magasins du centre-ville ont été victimes de pillages et d'actes de vandalisme. Les pertes et les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. En Guyane, des rotations aériennes ont été mises en place pour acheminer les médecins et livrer les médicaments dans les communes du Haut-Maroni. Conséquence de la sécheresse historique qui sévit dans la région et qui empêche la circulation sur le fleuve Maroni. Sécheresse et chaleur aussi. À Papaïcheton, les élèves et les enseignants du collège ne sont pas épargnés. Reportage.
Qui va te passer aujourd'hui à l'école ?
Moi. 8h du matin à Papaïcheton, la température est presque à 30 degrés. Les ventilateurs tournent à plein régime dans cette classe du collège. Une chance car en cette période de sécheresse, les coupures d'électricité sont fréquentes. Faute de livraison par le fleuve, le carburant se fait plus rare. Stéphanie Trouillou, professeure de SECPA.
Lorsqu'on a des coupures d'électricité dans le collège, donc plus de réseau internet, plus d'ordinateurs, plus de lumière dans les classes et plus de ventilateurs pour rafraîchir. On a chaud, on transpire, la concentration elle est très limitée, encore plus que d'habitude.
Avec ces fortes chaleurs, les élèves défilent à l'infirmerie.
Bonjour Alicia, tu peux t'asseoir.
Tania Cabos est infirmière scolaire.
Je constate que les élèves viennent me voir beaucoup pour des maux de tête.
Autre inquiétude, le trajet. Sur les 228 élèves du collège, 65 viennent en pirogue depuis les écarts. La piste reliant Papaïcheton aux écarts de Loka et Bonneville n'est pas praticable pour les cars scolaires, mais sa réhabilitation pourrait permettre d'éviter le trajet en pirogue de plus en plus dangereux.
Un reportage d'Emma Chevalier, Guyane la première. Et ce jeudi, Anne, la température montera jusqu'à 35 degrés dans la journée à Papaïcheton et 24 dans la nuit.
Merci Tessa Groman et merci à tous d'être avec nous. Un peu de musique avant de se quitter. Celle du producteur états-unien L'Usine. Voici le morceau Ticking Hands. L'Usine sera en concert ce soir à San Francisco. Et c'est avec le producteur des États-Unis, L'Usine, que se termine RFI Midi. Pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et pour l'heure, je vous laisse avec Pascal Paradou pour De Vive Voix. Très bonne journée à tous.